L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales. C'est la notion de diversité.
Luna et Carolina, bonjour.
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 Et merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation dans cette Auberge Espagnole sur Divergence FM. Vous êtes toutes les deux membres actives et militantes du collectif Nous Toutes 34, qui est, je crois, un collectif national. Ben, je ne le crois pas, j'en suis sûre d'ailleurs. Qui possède des antennes donc dans les différents départements. Nous vous accueillons cette semaine car le 8 mars, c'était hier. Et s'il faut le rappeler, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, c'est le 8 mars. Et en même temps, on le sait, de cet engagement, on n'en a pas besoin qu'un jour par an. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait à vous laisser la parole plus longuement. Ma toute première question, elle est un peu personnelle pour chacune d'entre vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu besoin ou envie de vous engager? Le militantisme est un engagement. Qu'est-ce qui vous a conduit chacune à vous engager?
Alors, Luna, pour moi, je crois que mon engagement provient de quelque chose de très central qui est ma colère.
Ouais.
Je pense que j'ai accumulé des années de colère, ouais, du fait de ces inégalités, de ces oppressions, de ces discriminations patriarcales,
ouais,
et de les subir directement, puisqu'étant une femme.
Ouais.
Et que, ne sachant plus quoi faire de cette colère, elle se retournait un peu trop contre moi.
Ouais.
Et j'ai voulu lui donner du sens, j'ai voulu la rendre utile. Et je crois que m'engager, ça m'a aidé à ça.
D'accord.
Et puis à pouvoir aussi... être active dans cette lutte et à aider à ce que les choses changent et s'améliorent.
Très bien.
Vers une égalité.
Très bien. Carolina?
Oui, alors comment parler après ça? Parce que je rejoins tellement ce que dit Luna, ça ressemble énormément à mon histoire également. Moi, ça remonte à très très loin. Je ne me souviens pas de moi en fait sans féminisme. Ma maman qui se disait féministe déjà, et je pense que j'ai baigné dedans depuis toujours. Et sans vraiment avoir un aspect militant, être active, avoir l'impression en fait de participer vraiment activement à ce combat. Et le premier confinement m'a donné le temps de me poser et de le faire et de vraiment commencer à m'investir. Et depuis... ça a été pour moi un nouveau souffle en fait, et voilà, je peux plus m'arrêter d'être auprès de mes sœurs pour justement lutter pour nos droits.
Très bien. Expliquez-nous quelles sont les missions maintenant de votre collectif. À l'année, quel genre de mission vous traitez?
Bon. Alors, c'est Carolina. Le collectif Nous Toutes, c'est effectivement un collectif qui est national, qui est essentiellement tourné sur toutes les problématiques de violences sexistes et sexuelles. Nous, on est un collectif local, en fait, Nous Toutes 34. Effectivement, on va agir plus au niveau local, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des personnes qui, au travers des prises de conscience qu'il peut y avoir suite aux nombreuses communications qui sont faites, notamment autour du langage, autour du consentement, qui, de plus en plus, en fait, vont ne plus se sentir seules et se tourner vers nous pour venir demander soit une information, soit un accompagnement, avoir besoin parfois d'un peu de courage pour passer la porte d'un commissariat, etc.
Okay. Voilà. Quelque chose à ajouter?
Ouais, effectivement, je pense que ça passe beaucoup par de la sensibilisation. On a quand même une grosse utilisation des réseaux sociaux pour ça. Pour visibiliser ces questionnements-là et visibiliser aussi le fait que les victimes ne sont pas seules, qu'il y a des personnes qui sont là pour elles, qui les croient, qui peuvent les écouter, qui peuvent les aider si besoin. Et je crois que c'est une grosse part de ce qu'on peut faire. Après, je pense qu'on a... aussi des envies de projets locaux. Je ne sais pas si on en discutera, mais...
On peut.
On a pour objectif de se monter en association.
D'accord.
Pour pouvoir mettre en place des projets au niveau local un peu plus précis, peut-être, sur différents points, comme les groupes de parole.
Ouais, notamment, oui.
Voilà, on aimerait mettre en place, ça fait partie des projets qu'on a envie de mettre en place, comme les groupes de parole pour les victimes, justement, de violences sexistes, okay. sexuelles, conjugales.
Ok.
Qui est un projet qui nous tient à cœur. Enfin,
oui. Voilà. Des cours de self-défense également qu'on nous demande beaucoup et qu'on remettra en place par la suite dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Voilà, ensuite, effectivement, on travaille sur un répertoire pour pouvoir orienter les personnes qui
sur différents sujets, j'imagine, de la santé, enfin, j'imagine que...
Voilà, les suivis psychologiques, on a beaucoup de questions, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent en nous témoignant de propos qui sont tenus par certains psys, et ça, je pense que c'est plus Luna qui pourra en parler, parce que c'est sa profession, et où nous, on n'accepte plus, en fait, qu'on puisse dire à une victime qu'il faut qu'elle comprenne son agresseur, ou qu'un homme, c'est... il fallait s'y attendre, forcément. Oui. Un homme, ça a des pulsions sexuelles. Oui. Non, ça, on n'accepte plus, en fait.
D'accord. Je me reconnais pas mal, à titre personnel, dans tout ce que vous dites. J'élève un petit garçon. Et du coup, c'est une vraie question d'élever un petit garçon, mais d'élever une fille aussi. Hein, parce que il y a beaucoup de... Enfin, on le sait, c'est quand même les femmes qui élèvent aussi les hommes. Est-ce que c'est un axe sur lequel vous avez envie de travailler, hein, c'est-à-dire trouver une place au sein des établissements scolaires, que ce soit le primaire, le collège, le lycée? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez?
Ce serait un axe effectivement hyper important, l'éducation. Parce que ça me fait penser à une des pancartes qu'on avait hier avant-hier pendant la marche qui disait éduquez vos fils, et que la pression constante sur les filles, les petites filles, les jeunes filles et ensuite les femmes, et la culpabilisation en permanence de leur comportement, de leur agissement, de leurs mots, sans jamais réfléchir sur la question de l'éducation des fils, en fait, des hommes, des petits garçons, des garçons. Et je pense que ce serait un domaine sur lequel il serait très intéressant de réfléchir et de voir ce qui est possible de faire dans notre collectif ou avec d'autres associations pour travailler sur ce point-là.
Oui, c'est-à-dire que c'est un point absolument central. Je crois que c'est un article de Slate qui est assez récent, que j'ai dû lire il y a quelques jours, poser la question, n'est-il pas temps, en fait, de déviriliser nos rapports? C'est-à-dire que jusqu'ici, on a plutôt eu tendance à masculiniser les femmes, les filles, donc dès l'enfance et par la suite les femmes, pour gagner l'égalité. Et en fait, on se rend compte qu'on a adopté certains comportements de la domination masculine, et le but, en fait, c'est absolument pas ça.
Exactement, oui.
Et je pense que c'est cette remise en question-là qu'il faut faire, et effectivement, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire arrêter de genrer certains comportements, d'exiger aussi des petits garçons certains comportements. Un garçon a le droit de pleurer. Il faut arrêter aussi de rejeter tout ce qui a trait à la fragilité. C'est devenu une insulte. Oui.
Ou à la performance.
Ou à la voilà, on exige d'eux des performances qu'on n'exige pas des petites filles. Et ça commence donc dès le plus jeune âge pour ça, c'est-à-dire leur laisser aussi la place d'être qui ils sont. Voilà, ça peut être des petits littéraires, des enfants qui vont avoir envie d'avoir des pratiques fines, de motricité fine, dont on va les écarter parce que tricoter, parce que coudre, ça peut être vu comme des choses qui sont trop féminines. Et voilà, donc c'est effectivement peut-être une question qu'on se posera par la suite, d'aller porter cette parole dans des établissements scolaires.
Okay. Et Carolina dit dès le plus jeune âge, et je trouve que c'est vraiment important de souligner ça, parce qu'il y a des études qui montrent que dès les premières années de maternelle, les enfants ont intériorisé des concepts genrés. Et donc, ne pas se dire qu'à 3-4 ans, ils ne comprennent rien à tout ça et qu'ils ne le captent pas. Si, ils le captent très bien.
Complètement. Est-ce que vous avez des financements particuliers? Est-ce que vous avez des aides, des subventions?
Pas pour le moment, en fait.
La question qui fâche.
Disons que oui, là, on s'est donc vraiment constitué, structuré depuis assez peu de temps, puisque ça remonte à peu près au mois de septembre. Mmh. Cette association qu'on veut monter, qui va servir en fait de structure juridique de gestion, elle va être là aussi pour ça. Mais pour le moment, on est un collectif ultra soudé, on est hyper imaginative et on a réussi là à se faire des belles pancartes, des masques brodés, etc.
Ils sont très beaux. Vus.
Merci. Et pour le moment, sur nos deniers personnels. Et voilà, après, on a vu par exemple pour la collecte de protection hygiénique d'hier, où... Ce qu'on fait, en fait, ça passe par d'autres associations qui sont partenaires, comme le SCUM, les Mixos Solidaires ou Support Your Local Girl Gang.
Ouais. Voilà. OK. Mm. Quelque part, ça pose indéfiniment la question de ce que prend pas en charge l'État.
Ouais.
On est en Macronie. On a officiellement un beau placard publicitaire qui est une vitrine, c'est-à-dire tendre à réduire les inégalités hommes-femmes. On a des demi-mesures telles que sont prises, alors avec par exemple Vidal et l'enseignement supérieur, la recherche et les 1500. Alors 1500, je trouve ça ridicule comme chiffre, mais 1500 distributeurs sur la France entière de serviettes hygiéniques ou tampons gratuits dans les universités. Très bien. Et quid des lycéens et des collégiens, on n'en parle pas. On a je crois, une mise en application d'une loi au 1er mars qui dit que toute entreprise est obligée désormais d'afficher publiquement les inégalités salariales dans son entreprise. Un numéro de téléphone à disposition pour les entreprises. Mmh. Et ce numéro, c'est pas de bol, il a été utilisé pour téléphoner si on veut se faire vacciner contre le Covid.
Oui, c'est dommage. Hein.
Voilà. est-ce que, alors je ne veux pas vous s'appeler moral parce qu'on a tellement besoin de vous, mais est-ce que ça fait partie des choses? Est-ce que vous avez des interlocuteurs institutionnels de temps en temps ou jamais?
Oui, on a des interlocuteurs institutionnels. On a déjà été reçus par Fatma Nakib, qui est l'adjointe au maire à l'égalité femmes-hommes. Également par l'une de ses collaboratrices. On espère justement pouvoir faire progresser la cause des femmes à notre niveau local, parce qu'on reste, nous toutes, 34.
Oui, donc, tout à fait.
Voilà.
Bon, on a une Alice Coffin qui se charge, elle ne fait pas partie de ce collectif-là, mais elle est une femme politique, on peut lui transférer des messages.
Complètement, bien sûr. Je suis certaine, hier, on a vu aussi la députée Muriel Ressiguier qui était là. Fatma Nakib, bien sûr, qui était là également. Il y a des soutiens et j'espère en tout cas que quand on aura monté notre association, on pourra aller les voir, présenter nos projets et être soutenus pour pouvoir les mettre en œuvre, avoir un soutien institutionnel de leur part.
D'accord. Mmh. Comment se passe la coordination entre les antennes, puisqu'on rappelle que vous êtes un collectif national, hein, vous l'avez dit. Mmh. On sait que là, vous êtes, par exemple, le collectif national porte une actualité qui est la sortie du livre de Caroline Dehas, par exemple. Y a un lien, il y a un réseau de communication où c'est vraiment chacun sa tambouille sur les territoires.
Je pense qu'il y a un lien de communication permanent entre le collectif national et les collectifs locaux, enfin les comités locaux. Oui. Après, je pense que les comités locaux restent quand même très indépendants dans leur envie de porter certains projets ou de participer à certains projets.
D'accord.
Voilà. Mais effectivement, on a une communication permanente via mail ou via des réseaux où en fait on peut communiquer directement avec des membres du collectif national.
D'accord.
Maintenant, c'est pas du tout, c'est ça qui nous a plu, je pense, à toutes dans notre collectif, c'est qu'il n'y a absolument pas de hiérarchie, c'est-à-dire que le collectif national n'est pas au-dessus des collectifs qui soient départementaux, municipaux, etc.
Okay.
Donc, en fait, on est extrêmement libre d'agir. Et à ce titre, c'est vrai que... nous-mêmes, nous n'appartenons pas vraiment, en fait, au collectif national.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on fait vraiment partie du collectif Nous Toutes 34.
Oui.
On travaille en collaboration avec elles. Elles vont nous envoyer des mines d'informations qu'on va pouvoir relayer, etc. Mais il n'y a absolument pas de hiérarchie.
D'accord.
Il n'y a pas de domination.
Oui.
Voilà.
C'est horizontal. Et ça,
on a la possibilité de choisir, en fait,
parmi
si oui ou non on participe à ce qu'elles peuvent nous proposer.
C'est ça. D'accord.
Et en communication de notre collectif à notre niveau à nous, quoi.
Ok. On est sur l'après-MeToo avec toutes ces déclinaisons. Alors, on entend beaucoup la parole se libère, mais la parole se libère et peut-être aussi que la société est plus prête à entendre et écouter qu'avant. On peut en tout cas y réfléchir. Est-ce que vous sentez quotidiennement un nouvel élan du côté de l'engagement, en fait ? Des demandes d'adhésion ou...
Alors, moi, je pense que je vais parler de quelque chose qui me paraît important, c'est de ma pratique professionnelle.
Ouais.
Parce que je rappelle que je suis psychologue,
oui.
J'exerce dans un cabinet libéral, et en fait moi je m'en rends compte beaucoup dans ma pratique professionnelle.
D'accord.
Alors après je sais pas si ma population de patients-patientes est représentative, parce que je reçois énormément de patientes.
D'accord.
Qui ont entre 20 et 35 ans.
Mmh.
Mais je me rends bien compte qu'elles sont très engagées, qu'il y a de plus en plus de personnes qui me posent des questions, puisque je suis même en tant que professionnelle visible comme étant une personne.
D'accord.
Qui fait partie,
okay,
du collectif.
Donc elles peuvent aussi faire la démarche de venir vous voir, vous, parce,
ouais,
qu'elles ont une problématique qui pourrait être féministe,
tout à fait,
entre guillemets.
Okay. Et du coup, moi, je me rends compte dans ma pratique professionnelle que ces engagements sont de plus en plus présents et qu'on en parle même de plus en plus dans le cadre des thérapies.
D'accord.
Des oppressions et des discriminations patriarcales qui ont des incidences directes sur la santé mentale des femmes.
Oui.
Et du coup, moi, je vois que ça bouge à ce niveau-là.
Oui.
Et après, d'un point de vue très personnel, je le vois dans mon entourage,
oui,
chez mes proches, en fait, qui, oui, se posent des questions là où ils ne s'en posaient pas du tout avant,
oui,
et qui me posent des questions là où ils ne m'en posaient pas du tout avant. Donc,
D'accord. Carolina ?
Oui, au niveau en tout cas du collectif, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour nous rejoindre. On a aussi énormément de personnes qui nous disent que, alors elles disent grâce à vous, bon, c'est surtout grâce à cet élan national et même international.
Hein, ouais,
voilà. On a le courage de parler, on a eu le courage d'aller déposer plainte, par exemple, ou même de partir, de quitter un compagnon violent,
ouais,
etc. Et parfois, il suffit de quelques échanges de messages, d'avoir juste des messages de soutien en leur disant voilà, on est là.
Ouais.
Je pense à des cas très très particuliers, hein, mais de personnes qui ont réussi à quitter des foyers où ça se passait pas bien du tout et à reprendre leur vie en main, leur indépendance.
En échangeant avec vous, finalement.
En échangeant avec nous, ouais.
D'accord, très bien.
Ouais.
Est-ce que vous avez envie de parler des quelques dossiers, entre guillemets, que vous avez traités récemment ou que vous vous apprêtez à traiter avec votre collectif, en fait? On sait que certaines associations étaient très fortement mobilisées sur la question de Julie.
Oui, alors du coup, c'est vrai que l'affaire Julie, c'est une affaire qui, voilà, nous tient très à cœur et qu'on a voulu accompagner, notamment dernièrement, concernant le fait que Julie et sa maman se battent depuis quand même plus de 10 ans pour que justice soit rendue à Julie. Et en fait, c'était très important pour nous de pouvoir visibiliser notre soutien à ce qui se passe et rendre aussi visible l'injustice de cette affaire,
oui,
qui, rappelons-le, est une affaire qui a été, alors je sais pas si le terme est exact, décorrectionnalisé, ça se dit,
oui,
et que alors que Julie a subi des viols
par des pompiers.
Par des pompiers.
La ville de Paris.
Paris, ouais, tout à fait.
Elle a été correctionnalisée, en fait.
C'est
l'inverse, du coup.
Ouais,
je me mélange
en fait,
un peu.
Elle était, c'était une affaire de viol qui relevait,
ah,
qui était donc, voilà,
ouais,
qui aurait dû relever de la cour d'assises, puisque le viol est un crime.
Ouais.
Et en fait, certains éléments juridiques qui pour nous sont inacceptables, ont fait que l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel.
Ok.
Voilà.
Ok.
Après,
Carolina,
du coup, là, c'est vrai que l'affaire de Julie, elle est hyper importante.
Mm.
Elle est vraiment absolument essentielle pour nous. Il y a des affaires également au niveau local. Alors bon, des affaires judiciaires, certes. Hein, là, je pense notamment à Un jeune homme qui vient d'être condamné à du sursis pour des violences faites sur son ex-compagne. Et nous sommes en contact, nous attendons leur réponse. Alors je profite de cette antenne pour leur faire un petit appel. Il est l'image d'une marque de skate.
D'accord.
Et visiblement, il continue à utiliser cette image sans aucun
problème. Ouais, il n'est pas très embêté,
quoi. Voilà, donc nous, ce qu'on leur demande, c'est... on lui interdit de pas faire du skate, hein, c'est pas le problème.
Ouais.
Mais de là à être l'image, c'est quand même bien différent. Et on pense aussi à Douna, est cette jeune femme transgenre qui s'est suicidée après avoir été extrêmement mal reçue par le CROUS. Et dans de très nombreuses institutions, les personnes transgenres ne sont pas bien reçues du tout. On leur met énormément de bâtons dans les roues dans un parcours qui est déjà difficile.
Okay.
Et notre engagement va aussi vers toutes ces personnes-là pour les soutenir dans leur démarche, les aider si on peut et les visibiliser toutes les difficultés qu'elles ont pour permettre que... elles en aient de moins en moins, en fait.
Ouais,
c'est ça, notre objectif.
Et pendant ce temps-là, OKLM, LREM, fait interdire l'écriture inclusive dans l'administration. Tout va bien, on avance.
Mais bien sûr.
On arrive à la fin de cet entretien. Alors, question qui peut fâcher aussi, qui peut être clivante. Pour vous, la lutte féministe, c'est avec ou sans les hommes?
C'est une question importante, effectivement. Moi, je vais parler en mon nom, Luna, du coup. je pense que la lutte féministe est importante à mener avec nos alliés. Mmh. Et on aimerait que nos alliés, enfin que les hommes deviennent nos alliés, en fait. Moi, je tiens quand même à dire qu'il y a un besoin dans cette lutte-là et dans toutes ces actions de non-mixité choisie, parfois. Pour pouvoir avancer plus vite, pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir aussi récupérer des espaces qui ne sont pas les nôtres, comme la rue par exemple. Mais après, je pense que c'est très important qu'on puisse avancer avec des alliés et que voilà.
Oui, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que ça ne les a jamais questionnés pendant des siècles et des siècles d'avoir des cercles qui étaient qui excluaient les femmes, notamment. On a eu la question, c'est pour ça que ça, je parle un peu comme ça, mais il y a quelques jours, d'un homme donc cisgenre qui ne trouvait pas normal de ne pas être invité à un cercle qui était limité aux femmes. Mais enfin, je vois pas absolument pas pourquoi on a encore la liberté de choisir avec qui on a envie de discuter. Ça devrait absolument pas être un problème. Maintenant, effectivement, le féminisme, c'est demander l'égalité entre les hommes et les femmes. Le fait est que quand on regarde tous les chiffres, l'occupation des médias, l'occupation des rôles politiques, donc de pouvoir et de prise de décision, sont en majorité occupées par des hommes.
Ouais.
Donc tout ce qu'on veut, c'est plus de visibilité, être présente à égalité, en fait, dans toutes les prises de décision. Et effectivement, avec les hommes, enfin, on n'est pas... il n'y a pas de misandrie de notre part. Hein.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment toutes les deux d'être venues représenter courageusement, fièrement. Merci. Merci encore pour votre engagement. Ce collectif, nous toutes 34, on va se quitter en musique. J'ai demandé à l'une d'entre vous de choisir un titre. Vous allez m'expliquer pourquoi vous avez choisi celui-là. Quel est ce titre déjà et pourquoi vous l'avez choisi?
Alors du coup, le titre, c'est, si je ne me trompe pas avec mon superbe accent espagnol, c'est Canción sin miedo.
Ouais.
Est-ce qu'on peut le traduire peut-être
Chanter sans peur, voilà. Peut-être.
Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que peut-être tu connais un peu mieux que moi l'histoire de ce titre-là?
Non, enfin vas-y, parle-en.
C'est mexicain, je crois, c'est ça.
Ouais, c'est Vivir Quintana, ouais.
C'est un titre en lien avec la lutte de nos sœurs Yadelf en Amérique latine, ouais. D'où partent beaucoup de combats, ouais, très importants.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je me reconnais beaucoup dans cette chanson et dans les paroles. Et c'est vrai que bon, c'est en espagnol, mais c'est une chanson qui parle des féminicides,
oui,
notamment,
oui,
et qui est un des points hyper importants dans notre lutte avec le collectif. Donc,
Allez, on écoute ça. Merci à vous deux.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra.
L'Auberge Espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, sciences, environnement, tout y passe et tous y passent.
Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité.
Mais enfin donc, vous, vous amenez en fait du rêve et du rire.
Voilà, de la poésie, de la magie.
C'est comme la littérature ou comme le cinéma, la rencontre est meilleure en fait.
Dans l'Auberge Espagnole, on parle aussi de nos différences ethniques, de nos différences sociales. C'est la notion de diversité.